Maintenant, un bon bois de casse.
Maintenant, un bon bois de casse.
Et maintenant, un bon bois de casse.
Et bonjour à toutes et tous, c'est Christophe Bollinger qui, de bon matin, un dimanche à Essen, nous accueille devant un jeu dont on avait déjà parlé l'année passée. Bonjour Christophe.
Bonjour.
Et le jeu dont on parle, c'est Archipelago, qui était encore en sous format prototype, qui avait déjà un peu titillé nos oreilles, puisque c'est encore un jeu, entre guillemets, à la Bollinger, c'est-à-dire qu'on se retrouve avec quelque chose d'assez touffu, mais avec pas mal de mécaniques bien imbriquées. Et donc, est-ce qu'on peut revenir un peu sur l'historique d'Archipelago, le développement, et justement ces fameuses mécaniques qui font que, encore un Bollinger.
Oui, en fait, le jeu s'appelait d'ailleurs Archipel à l'époque, on n'a pas eu le droit de l'appeler comme ça, on a dû changer le nom grec et international, en fait, des archipels, qui est Archipelago. Donc maintenant, voilà, le jeu a pas beaucoup changé. Depuis l'année dernière, il a même presque pas changé. Quelques petits réglages, de rien du tout. Mais dans ses mécaniques principales, c'est le même. Par contre, niveau esthétique, ça a plus rien à voir. On a vraiment mis le paquet. On a eu trois artistes qui sont Vincent Boulanger, un Français, Ismaël, un Suisse, et Chris Killiams, un Canadien. Un s'est attaqué à toutes les tuiles, on a des superbes tuiles qui s'assemblent très bien et rarement vues au niveau du détail. C'est un mélange d'un Formule D et d'un Full Metal Planet modulaire, presque. Donc Ismaël est là d'ailleurs sur le salon et fait des dédicaces dans les boîtes. Ouais. On a Chris Killiams qui a fait tous les superbes personnages historiques un peu qu'on a dedans, et qui avait d'ailleurs travaillé pour Philosophia, pour Z-Man pardon, qui avait fait Fortune de mer. C'est lui qui faisait le cover et tous les personnages, donc ça allait très bien pour nous. Et puis Vincent Boulanger, je le mets en dernier, pas parce que c'est celui qui a le moins œuvré, mais parce que c'est celui qui a tout fait, sauf les personnages et les hexagones. C'est plus facile de le dire comme ça.
Donc on se retrouve sur les... Là, il a fait les plateaux individuels, les compteurs de score.
Tous les pions, tous les icônes. Et ce qu'il y a surtout à dire, c'est que ces trois gugus-là, ce que je peux en dire avec le recul le plus par-dessus tout, c'est qu'ils ont été hyper passionnés et motivés. Mais surtout passionnés, prêts à refaire, défaire, recasser. Et ils ont tous donné leur âme et fourni vraiment... Ils ont vraiment pondu Archipelago, vraiment comme je le rêvais, esthétiquement parlant. Et je crois que les joueurs le sentent et le disent de plus en plus sur le net par rapport à sur certains autres jeux où ils ont trouvé ça beau, mais on avait fait quelques erreurs, peut-être de PAO et tout, on n'était pas si bon. Là, pour l'instant, on a vu zéro retour négatif, donc c'est plutôt positif, quoi.
Alors venons-y, Archipelago, justement, finalement, ça fonctionne comment dans sa version finale ?
Donc dans sa version finale, on est encore effectivement, comme tu le disais tout à l'heure, dans un OLNI, un objet ludique non identifié. On est dans un jeu à l'allemande, parce qu'il y a des cubes, des ressources, etc. Mais on n'est pas vraiment dans un jeu à l'allemande, c'est pas que ça. On est dans un jeu de simulation, on pourrait dire un peu Ameritrash, mais on l'est pas vraiment parce qu'il n'y a pas de dés. On est dans un jeu un peu à la française, avec des petits coups des coups dans le dos, des petits coups de pute, tout ça, de la négoce à fond et beaucoup de tchatch. Si tu tchatches pas dans le jeu, que tu le joues dans ton coin un peu, à l'autiste, tu perds une énorme partie du jeu. On est dans un jeu semi-coopératif. À ma connaissance, de ce que j'ai entendu de mes potes joueurs et tout, il n'y a que deux jeux vraiment semi-coopératifs qui existent, qui tournent. C'est Republic of Rome, mais qui est un énorme monstre à faire tourner la nuit et qui est complexe. Je crois que tu es obligé de te manger quand même toutes les règles avant de pouvoir jouer. Je l'ai jamais joué moi, hein. Je l'ai, mais j'ai pas eu l'occasion. Et il y a donc plus ou moins celui-là. Donc semi-coopératif, voulant dire on peut tous perdre face au jeu, face à la révolte et se faire éjecter des archipels, renvoyer dans le continent. Ou alors, si on perd pas face au jeu, on aura un classement, un premier, un deuxième, un troisième et un cinquième. Donc ça, c'est dur à équilibrer parce que quand t'es dans du semi-coop, on doit tous coopérer pour éviter le truc. Mais d'un autre côté, si t'es tout dernier, t'en as rien à foutre que ça pète parce que ça, on va compter à la fin. C'est là que c'était dur. Il y a plein de mécanismes dedans qui justement font que tu palpes pas vraiment quand la fin du jeu elle tombe. Ton scoring, tu penses à peu près où être, mais t'en es pas 100% certain. Et puis surtout, il peut y avoir un indépendantiste autour de la table qui, lui, ne veut qu'une chose, c'est que la guerre d'indépendance éclate et que tous les colons soient renvoyés en France et que lui, le portugais, soit le seul à rester ici avec ses vaïnés.
Donc ça, c'est des rôles qu'on reçoit au départ. Et finalement, le but du jeu, c'est... Enfin, l'histoire du jeu, le pitch, c'est quoi ?
Le pitch, déjà, on est entre 1492, Christophe Colomb, découverte des Amériques, jusqu'à la fin de l'ère de colonisation des îles et des archipels. C'est Tahiti, la dernière, colonisée par les Français, donc 1797. Donc on s'étale sur 3 siècles. Un tour de jeu représente une génération, 10 à 15 ans de l'époque, une génération où on travaillait jeune. Et notre objectif, on joue chacun un explorateur, un grand explorateur dépêché par une de ces nations, Italie, France, etc., européenne. Et on a chacun nos objectifs secrets, un peu particuliers. Et on a une tendance, un truc qui est visible par tous, où là on score pas mal, et cette tendance, c'est la tendance européenne, c'est-à-dire est-ce qu'ils essaient d'établir la religion, ou de faire des grandes villes, ou populer les îles, ou ramener des ressources, etc.
Ça, c'est un choix que fait chacun des joueurs ?
Non, alors la tendance, elle est tirée, elle est différente à chaque partie, et les objectifs, tu as 3 paquets de 10 cartes, parce que le jeu est réglable en durée, je sais pas si tu te souviens, on peut faire de la partie courte, on a un deck d'objectifs pour partie courte, partie moyenne, partie longue. Donc tu as 10 cartes dans chaque, et dedans tu as l'indépendantiste, le pacifiste, tu vas avoir celui qui veut faire du fer, le portuaire, le religieux qui veut faire des temples, etc. Donc chaque donne est différente, et le jeu en lui-même, quand il est en place, génère entre guillemets, je dirais pas des scénarios, mais des what-ifs. Des what-ifs, c'est des BD qui avaient sorti Marvel et tout ça. Et que se serait-il passé si Hitler avait survécu, patin couffin, par exemple. Donc là, c'est... Et que se serait-il passé si Christophe Colomb avait découvert l'Indonésie et que là-bas, on lui avait donné pour mission d'amener le catholicisme,
oui, c'est ça.
Par exemple. Ou alors de ramener un maximum de fer des îles. Donc chaque mise en place par le jeu génère un scénario de possible, de what-if colonisation qui aurait pu arriver par le passé, avec tous les éléments que ça peut générer. Mais à côté de ça, tous les joueurs autour de la table, comme c'est un jeu où il y a énormément de chats, de négoces et tout, je dirais pas du roleplay, mais des fois pas loin, t'as quand même un objectif et un rôle à jouer, il faut des fois pas trop le montrer, des fois le cacher, des fois... Voilà. Donc il y a un petit côté caractériel des gens, c'est mieux, qui font que la même partie, le même scénario, même si tu donnais les mêmes données de scénario à 4 joueurs total capitalistes, ils vont faire péter le truc, en 2 tours ils vont avoir perdu, alors que si t'as des bons gentils et tout qui donnent et tout ça, ben, ça va donner autre chose. Voilà.
Donc tu le disais, il y a des durées différentes. Là, je vois sur la boîte de 30 à 240 minutes. C'est géré par les decks d'objectifs que tu vas dimensionner.
Les decks d'objectifs et on ne doit pas les dimensionner en fait. C'est 3 decks différents et on décide juste si on fait courte, moyenne ou longue. Les règles sont strictement les mêmes. Il y a juste le contenu dans les cartes qui va faire que la durée est plus ou moins longue. La durée aussi, c'est selon le nombre de joueurs. Il y a un petit tableau à l'intérieur. Une partie courte à 2 joueurs, c'est 30 minutes. Voilà, en moyenne, mais tu peux finir plus vite. Une partie longue à 5 joueurs, tu peux monter à du 4-5 heures, donc un gros civilisation comme la nuit. Mais après tu fais une partie courte à 4 joueurs, ça va être, on en a fait une hier soir, c'était 1h15 on a mis.
Ouais. Ça reste un jeu entre guillemets normal dans l'air du temps, on n'est pas sur du gros gamer de 5 heures à chaque fois.
Je dirais mieux que ça, ça reste un jeu que tu modules où tu veux.
Voilà, ouais.
Si tu choisis de faire ton Civilization-like comme celui le bienveu de l'époque d'Avalon Hill, là, où on y passait 6 heures, tu peux faire une partie à la civilisation. Tu veux te faire le petit jeu à l'allemande qui dure 1h15, tu peux aussi, c'est les mêmes règles. Tu changes juste de deck.
Alors on l'a dit, il y a des tuiles hexagonales qui font que justement, en fait, on va arriver sur une tuile. Ok, on a une tuile ici avec que de l'eau et les bateaux qui représentent donc chacun des joueurs. Et ça va s'étendre par découverte.
Alors au tour 0, au tout début, déjà, on arrive, on découvre les premières îles. Donc on va chacun poser un hexagone. Ça va faire le début de ton archipel. Et puis après, effectivement, on va utiliser cette roue d'action et on va utiliser nos actions pour faire tout ce qu'on veut faire, explorer, migrer, se reproduire, engager des natifs pour les faire travailler, aller récolter du poisson, des fruits, couper du bois, du fer, de la pierre, des bovins, faire des constructions. On peut construire des temples, des ports, des villes et des marchés. On peut aussi vendre, faire des transactions avec les marchés et puis prélever des taxes. Alors ça, les natifs aiment pas. Ça rapporte bien, ça fait gagner beaucoup de sous. Ça va très vite, on se défoule pas trop, quoi. On se foule pas trop plutôt. Et par contre, ça fait des révoltés. Ça fait monter le niveau de révolte. Et en fait, c'est là le jeu semi-coop, c'est que si des révoltés dépassent le nombre de colons qu'on est sur l'archipel, à ce moment-là, on a tous perdu. Sauf si dans les objectifs secrets, il y a un indépendantiste qui lui ne cherche que ça.
Qui n'est pas spécialement là à chaque fois.
Qui, voilà, il y en a 10 d'objectifs et il y a un seul indépendantiste. Donc même si tu joues à 5, tu n'as qu'une chance sur 2 qui soit là.
Ok, et donc on a effectivement plein de petits plateaux. Ça, c'est des plateaux qui sont communs à chacun ou c'est, ça,
non,
c'est ton plateau
ça,
individuel?
C'est le plateau du marché intérieur. C'est là qu'on met les 6 ressources qu'on vend et tout ça. Et en fait, ça représente toutes les ressources qu'ils ont de disponibles sur l'archipel. Que les natifs et les colons qui maintenant sont là, mélangés avec les natifs, ont récolté et qu'ils ont à disposition pour se sustenter, entre guillemets, ou pour construire ce qu'ils ont besoin. Le marché bleu ici, avec en fond, c'est le port. Et tu vois, derrière, on a des beaux dessins aussi. C'est les mêmes, mais... Hein. Donc le marché extérieur, lui, c'est tout ce qu'on a mis dans des hangars sur les ports, prêt à être envoyé vers l'Europe, quand l'Europe veut nous passer des commandes. Et toutes ces commandes ou ces consommations générées sur l'archipel sont gérées par le dos de ces cartes évolution. Quand il y en a une qui se révèle, on regarde, ah, bah ici, avec un cube d'ananas, on va tenir, une ressource ananas, on va tenir 4 citoyens. Si on est 16 sur la map, en total, tous les joueurs, il va nous falloir 4 ressources ananas. Si elles ne sont pas sur le marché intérieur, on va d'abord les prendre sur le marché intérieur. S'il y en a 2, ben on va relever 8 mecs. On couche les révoltés. Hein. Et après, on va faire un tour de piste en suivant l'ordre de jeu. Et on va voir si chacun est capable et veut donner quelque chose. Et on
va... donc, c'est, en fait, là où dans des jeux un peu plus... Enfin, où il n'y a pas ce côté semi-coopératif, on devrait nourrir, entre guillemets, ses ouvriers.
Ouais.
Mais on doit les nourrir, on doit nourrir les nôtres. Tandis qu'ici, tout le monde doit s'arranger pour que tout le monde soit nourri, c'est ça ?
Voilà. C'est-à-dire qu'en gros, à la fin de la crise, quand on aura déroulé l'ordre des joueurs, et ici, il y en a plein qui s'en foutent, qui laissent pisser, qui ne donnent rien. Quand on arrive au dernier, lui, il a tout le poids malheur sur les épaules. S'il y a 12 mecs couchés et qui donnent rien, et qui dit « Ah non, vous avez rien fait et tout, moi j'en ai marre, tant pis, c'est pas à moi, il donne pas ». Alors attention, dernier, ça veut pas dire dernier en score, hein, c'est juste dernier dans l'ordre de jeu, hein, et ça, ça se définit dans une certaine phase. Et bien à ce moment-là, s'il reste 6 mecs, 6 citoyens couchés, donc révoltés, on va monter le marqueur noir des révoltés de 6.
Donc c'est un choix et ça peut justement renverser un peu l'ambiance.
Disons que plus ta population est petite, plus ça va, c'est assez aisé de la tenir. Quand elle commence à grossir, t'as intérêt à avoir les ressources sur le marché, et nous tous derrière les paravents, parce que si on a des crises qui arrivent et qu'on y en arrive un peu trop, et c'est nous qui pouvons entre guillemets les contrôler ou les freiner ces crises, s'il en arrive trop et qu'on n'est pas équipé pour une grosse population, alors qu'on croyait que la révolte était loin, la population va s'enflammer très vite et elle va nous dépasser si personne veut donner.
Donc c'est en fait, si je veux vraiment le résumer, on a un jeu effectivement comme tu dis avec pas mal d'expansion, de gestion, mais en même temps avec le jeu qui a une vie propre, chose qu'on ne retrouve pas dans des jeux de type civilisation.
Oui, tout à fait. En fait, on le retrouve si, mais dans Civilization, le board game, le video game de Sid Meier, Civilization 4 par exemple, où il y a les villes avec les mecs qui sont de plus en plus énervés. Je cache pas que c'est fort probablement ça qui m'a inspiré. Je joue très peu des jeux vidéo, mais au moment où j'ai imaginé faire Archipelago, j'ai fait une partie et demie de Civilization 4 dans ma vie. La vraie partie, c'est celle du tutoriel que j'ai amené jusqu'au bout. Quand il m'a laissé faire, j'étais... La deuxième, on peut choisir un monde d'aussi gros qu'on veut. Ah, on peut choisir si on veut beaucoup d'eau ou pas. Qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai pris la planète la plus grosse. J'ai fait la montée des eaux maximum. Je voulais un joli archipel et tout ça. Je me suis fait un archipel géant, ne pensant pas du tout à jeu. Un mois après ou deux semaines après, va savoir, comme par hasard, c'est ça qui a germé. Parce que la partie, celle-là, je ne l'ai jamais finie. J'avais des bateaux de partout, il fallait que je transfère des... C'était... Tout le monde m'a dit, tous les fans de Civ qui connaissent bien, ils m'ont dit, mais t'as fait n'importe quoi, un monde comme ça, on s'y attaque quand on a fait plein de parties. Alors moi, j'ai fait 70% de ce parti, elle est toujours sur mon PC en cours, je ne la finirai jamais. Mais je pense que c'est elle qui a allumé la mèche d'Archipelago, en fait.
D'autre part, on parlait de la durée... Est-ce que ce contexte de durée est différent ? Parce que 30 à 240, c'est quand même énorme comme intervalle. Est-ce que c'est lié au fait aussi qu'il y a peut-être un public qui serait peut-être pas toujours preneur de faire 240 et tu dis, j'ai dimensionné quand même pour pouvoir faire des parties rapides ?
Ah, exactement. Ça a été fait, les trois types d'objectifs, ça a été... En fait, pas seulement pour le public. Ça a été fait pour les cas où j'ai 4 joueurs chez moi. On a tous envie de faire un archipelago. Il y en a un de nous tous qui dit, oh, mais moi les gars, dans une heure et demie, il faut que je m'en aille. Je veux bien jouer, j'adore, mais une heure et demie, il faut que je m'en aille. Si ton jeu, il fait 3 heures et qu'on a tous envie d'y jouer et qu'il a que ça comme possibilité, on est grillé à cause d'un gars. On va pas lui en vouloir non plus. Si on a le jeu, du coup, qui est réglable et qu'il nous dit, j'ai qu'une heure et demie, on fait une partie courte et on est bon. Alors, il y a plein de gens, là, qui, quand ils débutent, on est très frustrés à la fin d'une partie courte, surtout au début. Depuis que je joue de plus en plus et que j'ai fait des animes à Octogone, ici et tout, en fait, moi, la partie courte, maintenant, ça me frustre toujours un petit peu, mais plus vraiment parce que je sais pas quand elle se finit, parce que les objectifs de fin, ils sont secrets, c'est ce qui fait aussi que le semi-coop marche, mais je sais grosso modo quand elle arrive, et je gère tout, je planifie mon jeu en fonction de ce que je sais que ça va pas être long. Donc cette frustration, au début tu la sens vraiment, mais au plus les mecs y jouent, au plus ils vont s'y adapter en fait, ils vont moins la sentir. Donc sinon les vrais joueurs, les mecs qui ont un peu de temps, ils vont au moins taper moyenne. Moyenne, c'est le bon truc.
Ok, bon, bah ça c'est donc enfin un aboutissement. Ça, il a mis combien de temps à être développé ?
La première idée, c'était à 3 ans et 6 mois. Quand j'ai commencé à tomber les premières idées, après ces parties de civilisation délirantes, là, je l'ai laissé végéter pendant 6 mois parce que c'était une énorme usine à gaz, c'était le double de ce qu'il y avait là. Et j'avais tellement bossé dessus que ça... Je sais pas comment dire, j'avais pas envie d'aller mettre des coups de tronçonneuse dedans juste là. Donc je l'ai laissé mûrir pendant 6-7 mois. Figure-toi que les joueurs qui avaient joué sur la grosse version il y a longtemps, et à chaque fois qu'ils me recordaient, il en est où Archipelago ? Il y avait des bons trucs dedans. Ouais, mais je dis, c'était une usine à gaz, il n'y a rien à faire, c'est trop énorme. Je me sens pas là. Et parmi eux, c'était Sherin Ford, les Belges en partie, qui ont le plus venu me dire, mais quand même, il ne faut pas que tu le laisses tomber, il y avait des trucs vachement bien. Et à force de s'entendre ça tous les mois ou tous les 2 mois, à un moment, je suis remonté à Valmeunier, j'ai vu le dit, j'ai dit, bon, tu montes à Valmeunier, il faut que tu redescendes avec le volume divisé par 2 et la durée au moins divisée par 2. Et les règles. Tout plus simple. Et pendant 15 jours à Valmeunier, ça a été ça non-stop. Que là-dessus. Jusqu'à ce qu'ils redescendent plus clean. Et je crois que 3-4 mois après, ben, j'étais chez Trick Track à faire la vidéo. Il était rodé.
Ouais. On sent quand même un certain niveau d'expérience. De dire, au niveau de ton idée, tu arrives quand même à la dimensionner pour en faire un jeu. Allez, je veux dire, pas tout public, mais en tout cas, qui est accessible quand même à un public léger.
Oui, il est pas tout public, il n'est pas complexe, il est riche en possibilités. Donc ce qu'il faut savoir, et ce que je voudrais dire, c'est qu'il ne faut surtout pas, quand on a un public, je dirais pas de gros joueurs, même n'importe quel public, il ne faut surtout pas expliquer toutes les règles et démarrer après. Le jeu est fait pour lancer direct les gens dans le tour zéro, on fait la première exploration, je veux dire, et après, on déroule les phases, on montre aux gens ce qu'on fait à chaque fois, et après, quand on pose aux actions, il ne faut surtout pas expliquer les 14 différentes actions, quoi qu'il existe. On en donne une à un joueur, on lui donne la meilleure qu'il y a à faire au début, il y en a souvent une ou deux qui sont meilleures que les autres, et puis à chaque joueur, je donne une nouvelle action. Et au bout de 2-3 tours, ils ont tous vu toutes les actions, et là, le jeu il devient digeste, même pour une famille lambda de joueuses qui sait jouer du Settlers of Catan plus, tu vois, un peu plus.
Donc les portes du salon viennent d'ouvrir, donc les gens courent pour s'asseoir.
Comment ?
Les portes du salon viennent de s'ouvrir, donc
oui,
les gens courent.
C'est le Bronx et on va faire court, voilà. On va partir dans nos archipels voilà, sous les îles.
Donc voilà, mais écoute, super, je crois que effectivement ce côté, je crois que le côté timing différent et avec ce côté semi-coopératif avec une vie propre est quand même très très riche par rapport à d'autres jeux, donc ça vaut la peine de s'y attarder. Merci Christophe !
Merci à toi !
Vous avez aimé ce podcast ? Alors appuyez sur la touche trop cool. Vous n'avez pas aimé ce podcast ? Alors continuez. Sur podcast.net, vous en trouverez d'autres. Vous verrez, à l'usure, vous y arriverez.